Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph le 11 mars 1987.
C'est un lieu constamment pour nous de justice qui intervient aussi. Ça, on le verra. Je prends ce lieu-là, mais il y aurait d'autres aspects où la prudence est là quand il s'agit, par exemple, du carême. On y va avec toute sa générosité. Et puis, ça ne dure pas plus qu'une semaine, puisque c'est aujourd'hui l'anniversaire du mercredi des cendres. Ça dure une semaine, vous voyez. Et puis après, on est déjà poussif. La prudence consiste à pouvoir durer. Parce que tout de suite, y aller d'un seul élan. La prudence donne cette force, évidemment, c'est la prudence qui a la force. La prudence est liée aux vertus cardinales. La force, la tempérance et la justice. Et c'est cela qui donne, au sens très très fort, notre personnalité morale et donc le sens de notre responsabilité. L'imaginaire et la passion, c'est très très beau à voir. C'est un cheval au galop qui fonce et ça ne dure pas. Et c'est là où on voit très bien combien la prudence est importante pour nous. Parce qu'on est généreux, mais on n'est pas vraiment généreux. Parce que si on était vraiment généreux, il faut que ça dure. C'est ça la générosité. Il faut que ça dure, il faut que ce soit humain. Et les choses humaines durent. Elles durent en ce sens que nous savons très bien qu'il faut progressivement avancer. Et pour progressivement avancer, il faut du temps. La dimension temps doit être assumée, la dimension durée doit être assumée dans notre vie pratique. Et l'intelligence pratique doit compter avec le temps et la durée. Donc, je n'insiste pas plus, mais réfléchissez-y. Hein. Puis si vous avez des cas de conscience, au point de vue prudentiel, au plan philosophique, notez-les. Puis on essaiera d'éclairer ça à la goutte de lait. J'ajoute que la prudence nous permet d'avoir un imperium très net, de s'engager au moment où il le faut. Un homme prudent est celui qui passe à l'exercice quand il le faut et au moment précis où il le faut. Donc, il ne faut pas s'engager trop vite ni trop tard, puisque l'imperium, c'est se jeter à l'eau. Fais ceci. Donc, vous faites un acte imperium tous les matins en vous réveillant. Et si vous êtes un tout petit peu conscient, vous faites tous les jours, le matin, en vous réveillant à l'heure, un acte de prudence. C'est l'heure, fais ceci. Et quand vous retardez un tout petit peu, c'est-à-dire que vous lambinez, eh bien, à ce moment-là, vous êtes responsable que la prudence ne pousse pas. C'est très curieux. Celui qui lambine tous les matins, que vous lambinez une fois par an, ça passe. Que vous lambinez une fois par mois, ça devient déjà un inquiétant. Et que vous lambinez une fois par semaine, alors là, je dirais attention. Et si c'est tous les jours, alors c'est lamentable. La prudence ne pousse pas du tout. C'est important de voir l'émergence. Vous voyez, c'est ça qui est très beau du reste. De voir l'émergence de l'intellect pratique prudentiel par rapport au brouillard matinal. Il y a un brouillard matinal intérieur. Alors, il y a l'émergence de l'intellect, l'intelligence élucide. C'est le propre de l'intelligence. Le brouillard matinal, c'est l'imaginaire. Et c'est la passion quand ce brouillard est lourd. Il y a un brouillard léger, il y a un brouillard lourd. Quand on est près du Rhône, près de la Loire, je veux dire, le brouillard peut être quelquefois très lourd, près des fleuves, l'aspect affectif. Le panne d'areille, ça coule, ça coule. C'est les passions, le panne d'areille. Parce que les passions, c'est mobile, ça change. Alors il y a un brouillard lourd, quelquefois. Et le brouillard lourd a beaucoup de peine de devenir lucide. C'est l'intellect pratique transformé par la prudence qui nous permet de vite dépasser ce brouillard. Ne disons pas « c'est mon tempérament, c'est comme ça, je suis né comme ça », on me l'a toujours dit. J'étais lent, je suis lourd à porter, que voulez-vous. Alors je suis lent. On n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit d'abdiquer devant son tempérament. Le tempérament n'est pas une vertu. Il faut savoir le tempérament qu'on a. Hein. On a un tempérament sanguin, on a un tempérament pilieux, ainsi de suite. Hein. On sait très bien qu'on a un tempérament plus ou moins nerveux, plus ou moins lymphatique. La vertu de prudence assume le tempérament. C'est pour ça qu'on n'est pas prudents tous de la même façon. Quand vous devez être prudent par rapport à un tempérament extrêmement nerveux, un petit cheval arabe, alors vous savez très bien que la prudence consiste à dire « t'énerve pas trop ». Attention, attends un peu. Tandis que si vous devez, par rapport à un tempérament lymphatique, un bon cheval de labour, ça sent, vous savez, quand vous voyez un cheval de labour sortir de l'écurie le matin, vous voyez alors ce cheval de labour, la prudence consiste à dire « Hein, mon vieux, il faut y aller !» Et vous le prenez par la crinière, hein, « Il faut y aller !» Si vous faites ça pour un petit cheval arabe, ça va plus de tout. Le cheval, c'est l'animal noble. Hein. Donc quand vous comparez un cheval, c'est pas si mal. Il y a toute la gamme. Il y a des sanguins. Sanguins. Et le tempérament sanguin. Il faut savoir le tempérament qu'on a. La prudence consiste à connaître ce qu'on est. C'est là où la psychologie peut être intéressante. Mais on ne se conduit pas au niveau psychologique. Le psychologue n'a pas le droit de vous dire « vous devez faire ceci ». Non. Le psychologue a simplement le droit de dire « soyez attentive, vous avez tel tempérament, vous avez eu telle difficulté, vous avez eu tel échec, risque, ça va se répéter, puisque les échecs, ça se répète. On tombe dans des ornières, alors faites attention de ne pas tomber dans l'ornière. Mais ce n'est pas le psychologue qui vous dit, vous devez prendre cette résolution. Le médecin, le psychologue peut simplement dire, je ne vois pas d'obstacle majeur à cela. La ceci fait partie de la prudence, qu'on a besoin d'un bâton, d'une canne, d'un tuteur. On a besoin du conseil de quelqu'un. Je suis incapable de prendre cette décision seul. Alors j'ai besoin que vous soyez là. Ça, c'est prudentiel. Parce qu'on connaît sa fragilité. La prudence nous fait connaître ce que nous sommes, nos réserves, notre fragilité, notre vulnérabilité, nous fait connaître le milieu dans lequel on est. Il y a des milieux qui nous aident et des milieux qui nous appesantissent. Alors on quitte un milieu pour être dans un autre milieu. Ça, c'est, vous voyez, c'est la lucidité de la prudence. La prudence demande cette lucidité. On sait que telle personne qui n'est pas très loin de nous, qui vit dans la même communauté que nous, nous inhibe. Il y a des personnes qui sont comme ça. Il suffit d'être auprès d'elles pour plus du tout savoir ce qu'on est. On le sait. Alors, on les évite quand on est dans la fragilité. Évidemment, on les évite autant qu'on le peut. Et quelquefois, plus on les évite, plus on les rencontre. Ça fait partie des choses. Le philosophe dirait le hasard ou la providence. Mais on le sait. Ça aussi, il faut connaître les autres. Intelligent par rapport à ceux qui sont proches de nous. Voyez, il ne faut surtout pas que, soi-disant, la charité fraternelle nous enlève cette lucidité. La charité fraternelle, alors au niveau de la prudence chrétienne, n'empêche absolument pas, au contraire, elle augmente notre lucidité. La charité fraternelle ne fait pas aimer tout le monde de la même façon. On aime ceux qui sont proches de nous en les connaissant et en sachant ce qu'ils peuvent nous apporter ou au contraire ce que de fait ils nous alourdissent. Ah, c'est très très savant, vous savez, la prudence. C'est pas pour rien que les anciens appelaient ça une sagesse pratique. C'est tout le contexte, c'est tout le milieu dans lequel on est. Alors, on ne s'y arrête pas. Il ne s'agit pas de dire ah, ce milieu dans lequel je suis est impossible. Vous voyez, quand on dit par exemple que la vie commune est trop lourde, très souvent, c'est parce qu'on n'est pas prudent. Le simple fait de connaître le milieu dans lequel on est l'allège. C'est le propre de la connaissance. Quand on ne connaît pas, il y a une opacité. Et l'opacité, c'est toujours lourd à porter. Et alors la prudence consiste à connaître. On connaît le milieu dans lequel on est. Et on connaît le milieu dans lequel on est. Il est fait d'individus. Il est fait de personnes. On essaie de comprendre que telle personne peut nous aider, que telle autre personne, au contraire, c'est très lourd. Vous savez bien, la prudence d'un Abraham par rapport à Lot, si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite, c'est pas un exemple de charité fraternelle, mais c'est un exemple de prudence. Et on fait ça pour que la charité fraternelle soit mieux vécue. Parce que c'est pas la peine de se rencontrer tous les matins et de se tirer une tête invraisemblable. On garde le silence, mais on n'en dit pas moins. Et on sait très bien que si on ne gardait pas le silence, il y aurait certaines paroles un peu violentes. On le sait bien. La prudence consiste à savoir la force qu'on a et de nous, quelquefois, pour qu'on soit tout à fait autre. On doit être lucide là-dessus. Dans l'activité qu'on a, je me souviens, ça m'avait beaucoup frappé. Alors là, c'est au plan surnaturel, au plan chrétien. Quand on prêche, ça peut être très gênant d'avoir devant soi telle ou telle tête. Parce qu'on sait que tout ce qu'on dit est reçu autrement. Quand on enseigne, c'est la même chose. Alors, bon, quand on donne la bouteille, très bien, on sait. Et quand on est un jeune professeur, quand on commence à avoir devant soi telle tête qui vous fait la tête, parce que ça, c'est la tête au carré. Alors, ça nous inhibe complètement. Et ça permet de ça empêche de parler. Alors, je me souviens, c'était avec Marthe qui me disait, je prie pour que telle personne vienne à votre retraite. Et je dis à Marthe, vous croyez qu'il faut prier pour ça? Moi, ça m'ennuie énormément qu'elle soit là. Alors Marthe, du tac au tac, oh, mais c'était extraordinaire, avec la charité fraternelle de Marthe. Ah, je ne prierai plus pour qu'elle soit là. Ça, c'était la prudence. C'est très beau, ça. Vous voyez, quelqu'un de moins saint. Oh, Dieu, mais mon père, quand même. Hein, ça lui fait du bien. Pff, ne vous inquiétez pas. Non, pas du tout. Vous voyez, la prudence dans l'exercice de la charité fraternelle. La prudence dans l'exercice de la charité fraternelle. Quand on assiste à un cours, bon, même si on s'embête au carré et qu'on essaie de découvrir quand même quelque chose d'intéressant, parce que s'il est là quand même, il s'évertue de faire quelque chose, alors on peut lui dire, mon père, votre cours m'ennuie terriblement. Peut-être qu'on doit le dire dans certaines circonstances. Peut-être il vaut peut-être mieux pas le dire parce que c'est... Vis-à-vis d'un vieux professeur, ça n'a pas d'importance. Hein, parce qu'il en a vu dans sa vie, alors ça n'a pas d'importance. Alors on peut le dire. Puis on le sent tout de suite. Hein. On sent bien. Quoi. Alors tant que les bateaux, ça, la moitié s'embête, l'autre moitié s'embête moins, bon, on peut y aller. Hein. Mais quand il arrive avant, alors prudentiellement, dit, bon, il faut mieux arrêter. C'est tout. C'est une question de prudence, voyez ça. C'est de comprendre qu'on doit coopérer. C'est vrai, les activités qu'on prend, on doit coopérer. Et un cours fait qu'on coopère. Assister à un cours, en s'embêtant du matin jusqu'au soir, sans qu'il y ait la possibilité de coopérer, mais qu'on le dise. Autrement, on est un imbécile. C'est pas le professeur, mais c'est celui qui écoute qui est un imbécile. Parce que le cours n'est pas fait pour être premièrement une assaise. Il y a d'autres assaises. Mais il y a la lucidité, c'est ça la lucidité, c'est ça être intelligent. Intelligent de façon pratique. Vous voyez, assister à un cours auquel on s'embête entièrement, depuis le début jusqu'à la fin. Si on n'a pas fait d'efforts, ça c'est triste. On doit faire des efforts. On dit, mais oui, ça doit apporter quelque chose. Alors fais un effort. Si on a fait un effort et qu'on n'arrive pas, et qu'on le dise, le cours n'est pas premièrement pour être un exercice d'assaise. Assister à un cours en disant l'obéissance. Oui, l'obéissance doit être intelligent. De l'intelligence pratique. Le but du cours, c'est quand même de vous apporter quelque chose. Si le cours ne vous apporte rien, vous devez être suffisamment intelligent pour dire « ça ne m'apporte rien ». C'est quelquefois difficile de le dire au professeur lui-même, quoiqu'il comprend très bien. je suis dedans. Alors je sais ce que c'est. Et c'est pour tous les exercices de la vie commune, c'est comme ça. Il y a des exercices qui sont purement ascétiques. Éplucher les légumes. C'est purement ascétique, vous allez me dire. Ah, ça ne m'intéresse pas d'éplucher les légumes. Ah oui, mais alors, je vais demander à ceux à qui ça intéresse. Je vous affirme qu'il y en aura des quantités. Il y a des exercices d'ascèse qui sont de purement ascétiques. Je vous demande pas d'être intelligent quand vous épluchez les légumes. Oui, une certaine intelligence, il ne faut pas éplucher les pommes de terre comme on épluche les carottes, comme on épluche. Chaque aliment doit être épluché à sa manière. Et donc, on doit être intelligent jusque-là. Il y a des exercices ascétiques, on sait que c'est de la cèse. Très bien, c'est nécessaire. Ça fait partie de la prudence. Il faut essayer que notre vie, par la prudence, devienne lucide. La prudence donne une lucidité. Autrement, on n'acquiert jamais la vertu. C'est la clé, la prudence. Donc, assister à des cours sans rien comprendre, c'est tolérable pendant 3 mois, 6 mois. Je l'ai fait, moi. Les premiers cours de philosophie, pendant 6 mois, j'ai rien compris du tout. Et pourtant, c'était mon frère qui enseignait. Alors, il y avait au moins une code naturalité. J'ai rien compris pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, le brouillard s'est levé. Ça, je crois qu'il y a un début d'ascèse tout le temps. On comprend quand même quelque chose. Mais on ne comprend pas grand-chose. Bon. Alors, prenez 6 mois et on commence à voir que le brouillard se lève. Il y a quelque chose quand même derrière. Je comprends. Et puis quand il y a une variété de cours, certains cours, on comprend, d'autres cours, on ne comprend rien. Les cours de théologie naturelle, dans un jugement de sagesse, il faut du temps. C'est sûr. Il faut du temps avant d'entrer dans un jugement de sagesse. Mais c'est grand d'essayer de comprendre. Alors, vous voyez, il y a une question là de... C'est ça la prudence. La prudence éclaire toute notre vie. Et la prudence éclaire notre obéissance. Faut pas une obéissance de brute. Soyez pas obéissant comme un chien qui est obéissant parce qu'on tape dessus. Ou un âne, c'est encore mieux. Parce que l'obéissance d'un âne, la seule chose qu'il lui réserve, c'est de braire à un certain moment. Alors à ce moment-là, il s'arrête. Et puis, on ne peut plus rien faire. On n'a plus qu'à l'écouter. Une obéissance comme ça n'est pas une véritable obéissance humaine. L'obéissance humaine reste une obéissance humaine. Et la prudence intervient dans tout acte d'obéissance. Et dans tout acte d'obéissance, il faut cette lucidité. J'obéis. Alors, voyez dans la vie religieuse, j'obéis parce que je sais. C'est ma grande ascèse. C'est vrai, l'obéissance est la grande ascèse. J'obéis à l'autorité qui, pour moi, est représentante du Christ. Si j'étais un pur étudiant, l'ascèse serait beaucoup diminuée. Et j'assisterais aux cours en fonction qui m'intéressent et qui m'apportent quelque chose. Je suis religieux. Il y a une dose plus grande d'ascèse. C'est vrai. Et le professeur fait partie de ceux qui augmentent l'ascèse. Plutôt que de vous donner la discipline, je vous fais des cours. C'est une discipline intellectuelle. Alors, vous voulez bien recevoir des cours pendant un certain temps. Puis au bout d'un certain temps, vous dites, c'est suffisant. Je le sens bien, c'est suffisant. À ce moment-là, vous commencez, vous devez demander de respirer. C'est très quatrième, voyez le dosage. C'est très important d'essayer d'être lucide. L'intelligence ordonne et la prudence ordonne nos diverses activités. Pour qu'il y ait dans notre vie suffisamment de détente, de joie, pour supporter la cesse. C'est un équilibre prudentiel qu'il faut avoir. Et on doit être lucide, ça. Il faut être très vite lucide que le premier jour où vous entrez au noviciat, vous ne voyez rien. Et que vous n'êtes pas du tout lucide, je comprends. Mais au bout d'un mois, deux mois, trois mois, vous commencez un tout petit peu à être lucide. Et être lucide, c'est-à-dire d'obéir toujours plus. Puisque le propre de la vie du chrétien, c'est que toute sa vie soit dans l'obéissance. Alors on a une lucidité pour mieux obéir. On n'a pas une lucidité pour moins obéir. Ce ne serait pas la prudence monastique. Ce ne serait pas la prudence chrétienne. La prudence chrétienne consiste à dire progressivement, je tends vers une obéissance qui prend toute ma vie. Il ne faut pas faire ça du jour au lendemain, c'est impossible. Vous voyez, la prudence est au service de l'amour. C'est mon intelligence pratique qui est au service de l'amour. Et qui fait que tout doit être imprégné de cette lucidité. C'est très grand la prudence. C'est très beau. C'est une vertu qui pousse lentement. Quoi qu'on est prudent qu'à partir de 40 ans. Encore du temps pour vous, pour beaucoup d'entre vous. Mais il faut commencer vite. Alors, comprenez bien qu'au point de vue chrétien, il y a des suppléances du Saint-Esprit. Et si on a la charité, on a tout de suite la prudence infuse. Un novice a la prudence infuse. Mais ce n'est pas encore la prudence acquise. Et la prudence infuse lui permet de tout de suite de se mettre dans ce régime d'obéissance. Mais la prudence acquise, ça met du temps. Vous voyez, mais pour quelqu'un qui est plus âgé et qui entre au noviciat, il avait sa prudence. Il doit progressivement changer complètement de rythme de vie et faire que petit à petit sa prudence donne du monde de chrétien dans le monde se transforme en une prudence d'enfant de Dieu et de novice du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fort à faire parce que quand il n'y a rien du tout, quand on entre jeune, on n'a pas de vertu de prudence. On a une générosité. Jamais vu quelqu'un de jeune entrer avec la prudence. Un fruit printanier et les premières gelées du noviciat qui arrive assez vite fait que ça dégringole et que la prudence profonde va progressivement pousser. Parce qu'au fond, demander la profession simple, c'est un acte de prudence. Demander la profession perpétuelle, c'est un acte de prudence, de sagesse pratique. On la demande dans un but pour aimer plus. Mais je voudrais que vous compreniez que toute votre vie doit être éclairée par la prudence, par l'intellect pratique. Pour que tout soit ordonné à un plus grand amour. L'homme prudent, c'est celui qui sait s'engager en vue d'aimer plus. Oui, alors là, il faudrait bien dire que la prudence dans notre langage français, regardez dans chaque pays, les modalités seraient pays qu'est devenue la vertu de prudence. Pour nous, un homme prudent, vous savez bien, la prudence du Normand, c'est bien ce que c'est. C'est celui qui ne s'engage pas beaucoup. C'est ça la prudence du paysan. C'est très curieux que la prudence a perdu sa force, comme la vertu. La vertu, au point de départ, en grec, arrêter. Arrêter, c'est justement une noblesse. La vertu, c'est l'acquisition de titres de noblesse. Et la prudence, c'est celui qui sait s'engager. C'est ça l'homme prudent. Il s'engage au bon moment. Mais il s'engage. Un spectateur n'est pas prudent. Et celui qui est dilettante n'est pas prudent. Parce que tout glisse. Un homme prudent, c'est celui qui sait s'engager au bon moment et qui s'engage pleinement. Donc quand on fait un acte d'accepter la profession sainte, redonner à la prudence son vrai sens, celui qui sait s'engager et qui s'engage en ayant mobilisé toutes ses forces dans un ordre donné. Donc comprenez la grandeur de la vertu de prudence. Elle est faite pour empêcher le brouillard matinal, pour empêcher l'opacité des passions, pour empêcher l'englument du concupiscible et empêcher la domination de l'irascible, et faire que on pose des actes prudents en vue d'aimer plus. La prudence est au service de l'amour, au service de la fidélité dans l'amour, au service prudence. Est celui qui est capable de se donner. À côté de la prudence, il y a cette autre vertu cardinale qui est la justice. Il faut essayer de comprendre ce que c'est que la vertu de justice. Mais les deux se tiennent très fort. Parce que pas de prudence sans justice, pas de justice sans prudence. On verra ça. Comment les vertus cardinales se tiennent. Et ce qui est intéressant dans les vertus cardinales, je vous l'ai dit au début, c'est, je crois, l'œcuménisme philosophique. Puisque tous les philosophes acceptent les vertus cardinales, je crois, sauf évidemment les idéologies athées qui n'acceptent plus le point de vue éthique. Et dès qu'on accepte une éthique, on accepte les vertus cardinales. Évidemment, on les comprend différemment. Et c'est intéressant de voir ça. C'est qu'on est bien obligé d'accepter que l'homme ne peut être un homme vertueux au grand sens du mot. L'arrêté, la qualité, que s'il est prudent. Et la prudence est liée tout de suite à la justice. Alors, qu'est-ce que c'est que la justice? La justice doit se comprendre pour nous à partir d'actes justes. Quand on parle du juste dans les traditions religieuses, le juste est craignant Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'homme juste, le citoyen juste? Pas seulement celui qui paie ses impôts. Vous payez vos impôts, en faisant un acte de justice. C'est évident que c'est un acte de justice politique. La justice consiste à accomplir votre devoir, ce qui est demandé. Vous êtes juste quand vous accomplissez ce qui vous est demandé. Et quand vous détournez ce qui vous est demandé par caprice, vous commettez un acte d'injustice. On ne pense pas assez à ça. Dans une vie commune, vous voyez, dans une vie commune, on vous demande telle ou telle fonction. Ben, vous êtes là. Et puis un jour, vous n'oubliez pas. Mais vous dites, après tout, il fait beau. J'aime mieux faire autre chose. Me promener. Pourtant, j'avais dit que je serais là. Vous commettez un acte d'injustice. Puisque on comptait sur vous. On comptait sur vous. Vous deviez faire ça. Et vous ne le faites pas par caprice. On commet beaucoup plus d'injustices qu'on ne pense. Et on n'y pense pas. Tu après tout, un peu de liberté. Laissons. Ah oui, attention. La vie commune implique une certaine organisation. Et cette organisation implique que chaque rouage fasse ce qu'il doit faire. Et si un rouage ne fait pas ce qu'il doit faire, tout le reste s'en ressent. Donc là, on voit bien ce que c'est que l'injustice. On vous charge de faire la cuisine. Et vous êtes très fatigué ce jour-là. Petit après tout. Ça leur fera du bien. C'est carême. C'est carême. Ça leur fera du bien. Sans pas cuire. Bon moment, ça n'a pas d'importance. Ce sera pas bon, ça n'a pas d'importance. Tout le monde fera pénitence comme ça. Vous commettez une injustice. Est-ce qu'on comptait sur vous? Mais c'est... Alors, la justice, très simple. Aussi, c'est lorsque, à l'égard de quelqu'un d'autre vous dit, est-ce que tu peux pas me remplacer? Je peux pas, moi. Vous dites oui. Au dernier moment, vous dites non. Vous commencez, vous avez une double injustice. Vous n'avez pas tenu votre parole. Quand vous avez donné votre parole, vous vous êtes engagé. Et vous êtes engagé, donc vous devez le faire. Il y a des formes de justice, mais c'est très curieux, ce sont toutes nos relations. Nos relations avec les êtres qui sont autour de nous impliquent des relations de justice. Il y a des relations amicales et puis il y a des relations de justice. C'est les deux types de relations qu'on a. Et les relations amicales assument une justice. Le ius, le droit de l'ami. L'ami a des droits. C'est à l'intérieur de l'amour d'amitié, il y a des droits. L'amitié augmente les droits. Mais augmente aussi les obligations. Et donc les devoirs. C'est pour ça que quelquefois on a très peur de l'amour d'amitié. Parce que ça étend les devoirs et les droits. Il faut comprendre qu'une amitié ne peut demeurer que si on maintient vis-à-vis de l'ami une certaine justice. Il y a des amitiés qui meurent à cause des injustices, quelquefois très inconscientes. Oh, c'est mon ami, je peux tout lui demander. Attention. C'est mon ami, donc vous devez être encore plus attentif à ses droits les plus légitimes, les plus simples. Il a besoin de respirer. Il a besoin d'être seul. Il a besoin de prier. Les droits les plus profonds. Là, si vous commencez à l'étouffer, vous supprimez l'amitié parce que vous n'êtes pas respectueux vis-à-vis de lui. curieux, la justice, tissu de relations et des relations multiples. On est engagé dans une communauté. Il y a une organisation. Il y a des devoirs supplémentaires. Puis il y a la justice très élémentaire, très profonde, à l'égard du respect de l'autre. Ça, je crois que nous pouvons tous comprendre, cette diversité d'actes justes. Donner à chacun ce qui lui est dû. Comme ça que Platon définit la justice, c'est comme ça qu'Aristote définit la justice, c'est comme ça que depuis on a toujours défini la justice. Rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est pas si commode. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure.